Sokɛ ka ɲi siri bɔlɔ la kaya la
musow ka fo
ka wale ɲumandɔn
musow ka fo
ka bonyaɲa sɔrɔ musow ta bɛ yaki
walekɛ
musow
ka
fani faama bonyaɲa sɔrɔ.
Bonjour à tous et à toutes, à chacun, à chacune, Christophe Jubien pour vous accueillir à bord des nouvelles d'ici et d'ailleurs, l'émission de Radio Grand Ciel qui vous donne des nouvelles de l'étrange étranger. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Christelle et William Desvallons de l'association ANAC, un pont pour les enfants qui vient en aide aux enfants des rues à Manille, Maniste aux Philippines. ANAC fête cette année ses 20 ans. L'occasion d'un bilan, mais aussi bah, peut-être l'occasion de dégager de nouvelles perspectives. Christine et William Desvallons, bonjour.
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 Alors, on va faire, parce qu'on n'est pas très fort en France pour la géographie, on va peut-être faire un peu de géographie. Où se trouve très exactement Manille ?
Alors, Manille se trouve en Asie du Sud-Est, au sud de la Chine. C'est un archipel qui compte plus de 7000 îles. Dont à peu près 4 000 ont un nom et 3 000 sont habités. Donc c'est un archipel qui s'étend du nord au sud. Et donc la capitale, c'est Manille, une grande mégalopole.
Ah, c'est une mégalopole, donc c'est
voilà,
une très grande ville.
Une très grande ville, 20 millions d'habitants.
Oh, c'est énorme.
Donc voilà, on parle souvent de Manille comme une jungle urbaine. Et au niveau des kilomètres, ça représente 11 000 kilomètres de distance entre la France et les Philippines.
Ah oui, donc c'est très loin, évidemment. Loin des yeux, loin du cœur, parfois. Donc,
voilà. Et puis, quelques heures de décalage. De décalage horaire. Hein, ouais. On est dans le même hémisphère. Et puis, voilà. Par exemple, pour représenter aussi le nombre d'heures en avion, il faut compter une quinzaine d'heures.
Une quinzaine d'heures.
Voilà.
Je vous pose une question un peu indiscrète, mais enfin, après tout, elle n'est peut-être pas tant que ça. Comment vous avez découvert Manille et la situation des enfants ?
Alors, on a découvert il y a 14 ans, même un peu plus, oui, 15 ans même. Hein, le temps passe. C'est lors d'une retraite de fiançailles, quand on s'est fiancés, qu'on a découvert... un organisme qui envoie des gens dans le monde, un organisme de coopération, la Fidesco. Alors c'est vrai que c'était un projet qu'on avait tous les deux au fond de notre cœur, donc ça tombait bien, on avait tous les deux le même projet. Et donc on a commencé, on a fait une formation d'un an avec la Fidesco. Et donc, c'est donner de son temps, loin de nos racines. Et en fait, on a une mission, mais on ne décide pas, en fait, on ne choisit pas où on va. Donc, quand notre mission est tombée, eh bien, la première chose qu'on a faite, hein, ça correspond à votre première question au niveau géographique, on a pris une carte du monde et savoir où se trouvaient les Philippines. Voilà comment...
Et donc, vous avez séjourné aux Philippines pendant un an, deux ans
À peine un an.
À peine un an.
À peine un an,
ouais. Donc là, vous avez découvert une réalité, j'imagine, William, très différente de la nôtre. Hein.
Exactement. Alors déjà, le climat, c'est un climat tropical. Donc, il fait chaud, lourd... Et puis, à Manille, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui sont très, très riches, ouais, et puis des gens qui n'ont rien du tout, mais vraiment rien du tout. Ouais. Et cette réalité également des enfants qui sont dans la rue. Et la seule chose qu'ils ont, eux, c'est leur carton. Voilà.
Ouais.
Alors, heureusement, on a été correctement formés pour ne pas avoir un choc et une révolte...
Enfin, j'imagine que le choc a quand même existé, non ?
Oui, on ne s'est pas mis en colère contre ça nous a aidé à contenir notre colère, cette formation. Le choc, il est énorme, hein, puisque tout est différent, en fait. La langue est différente, le fonctionnement est différent, la culture est différente.
Ouais, je voulais vous poser une question, c'est dans quel... Parce que pour que les auditeurs de Radio Grand Ciel comprennent bien quel est ce pays, les Manilles, et pourquoi il y a tant d'enfants dans les rues, dans quel état socio-économique, si j'ose dire, Manille se trouve-t-elle aujourd'hui? C'est une ville qui vit de quoi, en fait? C'est une ville qui est quand même en développement.
En fait, on est parti en 2004, et puis on y est retourné tous les deux ans, deux avec Christelle, grâce à cette association dans laquelle on s'est engagés tous les deux. Et en fait, depuis 2004, on voit une évolution économique quand même, puisqu'il y a de plus en plus de constructions, il y a de plus en plus de circulation. On se rend compte en fait qu'il y a une classe moyenne qui est en train d'évoluer. En fait, économiquement, on a l'impression que ça va de mieux en mieux. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a toujours autant de pauvres dans la rue. Quoi.
Ouais, tout le monde ne profite pas de cet essor. Comme souvent dans les pays en voie de développement, finalement, je pense au Brésil et à d'autres pays où les écarts de fortune sont colossaux. Est-ce que Manille est gouvernée, si j'ose dire, sagement dans le respect des lois démocratiques telles qu'on les conçoit ici en Europe de l'Ouest?
Alors, c'est une démocratie. Ils ont élu un président et puis un sénateur. Ouais. Le système ressemble plus aux États-Unis, puisque les Philippines, en fait, elles ont été mises sur la carte par Magellan. Et puis, il y a eu pas mal
d'invasions.
D'invasions ou même on va dire ça. Il y a eu les Malais. Il y a pas mal d'influence. Les Chinois, il y a eu les Japonais. Et puis c'est après la Seconde Guerre mondiale que les Américains se sont installés là-bas.
Ah, donc c'est multiculturel, quoi.
C'est multiculturel et c'est difficilement stable, en fait. Ils cherchent un peu, on a l'impression, nous, avec un peu d'observation, c'est difficile à se stabiliser.
Ouais.
Et puis dernièrement, il y a un président, il y a eu un dictateur qui s'appelle Marcos, qui a été destitué par une révolution du peuple. Après, ils ont mis en place... Donc la démocratie. Et là, le dernier président élu, il veut lutter contre la drogue. Et du coup, c'est pour ça qu'il se fait élire avec une
poigne.
Avec une poigne, voilà. Mais du coup, la méthode qu'il a décidé d'employer pour lutter contre la drogue, c'est de donner le droit aux gens de tuer les dealers de drogue sans procès.
Ah oui, d'accord. Donc n'importe qui peut sortir son flingue et tirer sur n'importe qui.
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Voilà.
Alors nous, ça nous paraît choquant, d'ailleurs. Et les Philippins qu'on rencontre, ils soutiennent ça. Parce
qu'ils en ont marre peut-être de la drogue, et j'imagine que cette économie parallèle.
Mmh. Et ce qu'on se rend compte, nous, c'est que ça a mis de la tension dans les endroits qu'on va visiter. En fait, chez les pauvres et dans les bidonvilles, il y a de la tension de plus en plus. Il y a eu... Donc à la Fondation, il y a un jeune, on a appris ça la semaine dernière, un jeune qui a été tué par un policier, corrompu sûrement le policier. Et du coup, un des enfants de la Fondation qu'on connaissait est décédé dans la rue. Quoi.
Ah. On va entrer dans le vif du sujet. Alors, peut-être deux mots quand même sur l'historique d'Anax. C'est une association, je crois, catholique, si je ne m'abuse. Elle a été créée quand et pourquoi? Bon, on sait que c'est il y a 20 ans, puisque c'est le 20e anniversaire, mais pourquoi?
Alors en fait, pourquoi elle a été créée? Ou comment plutôt? Il y avait une petite association qui battait un peu de l'aile, qui avait un centre dans les bidonvilles et un centre pour les enfants des rues. Et puis, il y a un père jésuite qui est arrivé aux Philippines pour faire son complément de formation, je crois, un truc comme ça, qui s'appelle le père Jean-François Thomas, et avec un groupe de volontaires qui ont décidé de reprendre cette association pour la faire grandir. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que ça a été officiel, puisque les statuts de cette fondation ont été déposés à cette date en 98. Et du coup, depuis, ça continue. Donc le père Jean-François Thomas n'est plus là-bas, mais il a été remplacé par Mathieu Daucher, l'actuel directeur de la Fondation. Donc l'abbé Daucher est originaire de Versailles, et il s'est fait incardiner prêtre dans le diocèse de Manille pour pouvoir rester auprès des pauvres.
Donc il reste là-bas, d'accord.
Voilà.
Quand on dit pauvre, c'est vraiment pauvre, quoi. Ça, vous avez parlé de bidonville tout à l'heure.
Oui, c'est vrai que c'est les plus... défavorisés de Manille. Alors on parle des bidonvilles, mais aussi on parle des enfants des rues. Les enfants des rues, c'est les enfants qui n'ont plus, qui ont quitté leur famille, pour des raisons diverses. Ça peut être parce que leur famille ne peut plus répondre à leurs besoins. Donc voilà, il est ou parce que voilà, il y a des maltraitances à la maison, en famille, et du coup l'enfant eh bien va à la capitale. Il y a des familles qui vivent dans la rue. Et puis bon, les enfants aussi doivent aussi assumer leur vie dans la rue. Alors que dans les bidonvilles, les enfants sont sont en famille. Voilà. Il y a même des familles voilà qui vivent sur une on dit la Smoky Mountain, donc ça veut dire donc une décharge publique. Et là, les enfants, les en famille, vivent et travaillent sur cette décharge. Donc voilà, ils vivent de peu. Et donc la fondation, elle a des centres dans les bidonvilles, dans différents bidonvilles le long de la baie de Manille. Et puis elle œuvre aussi auprès des enfants là, des rues qui vraiment vivent. Sont à la fois seuls et vivent aussi en gang. Mais voilà, là, ils n'ont rien. Comme disait tout à l'heure William, voilà, c'est un carton, c'est au jour le jour.
En fait, donc il y a les enfants des bidonvilles qui, eux, sont de Manille, mais la plupart des enfants des Russes viennent finalement d'autres endroits, c'est ça de...
Ça peut,
pas forcément
oui.
Des mégalopoles.
Oui.
Ils fuient la misère pour retrouver une autre misère, quoi, c'est
oui.
Ça.
Oui, oui, en espérant voilà, que la capitale va leur permettre de vivre. Et puis, c'est tellement une immense ville que bon, certains enfants aussi de la rue, certains enfants, en fait, se perdent et deviennent aussi enfants de la rue, quoi. Il y a des questions... toute simple ouais. Comme ça, toutes des situations où voilà, bah, ils se perdent et donc ils se retrouvent tout seuls.
Ils peuvent partout, voilà. Ils ne retrouvent pas leur chemin. Moi, je me souviens que dans les années 80, on parlait déjà des enfants de Manille. Je me souviens d'ailleurs que Maxime Le Forestier avait fait une chanson, il parlait des enfants de Manille. Mmh. C'est vieux cette histoire, mais pourquoi ? Pourquoi ? Ça n'est toujours pas résolu.
Mmh. Alors c'est vrai qu'il y a quelques actions, quelques associations qui œuvrent dans les bidonvilles. Donc c'est-à-dire des associations non gouvernementales. Au niveau du gouvernement,
C'est peut-être pas la priorité ou encore ou la problématique est tellement immense que
peut-être que tu peux rajouter. Mmh.
En fait, c'est une vaste question le pourquoi. Et ouais. On se rend compte qu'il y a encore et toujours des pauvres et énormément de pauvres et toujours des gens qui n'ont rien. D'ailleurs, étonnamment, quand on a commencé en 98, la moyenne d'âge des enfants était de 12, qu'on trouvait dans la rue était de 13-14 ans. Et avec l'augmentation de la pauvreté, le riz a doublé, par exemple, dernièrement, a doublé de prix. Du coup, ceux qui avaient du mal à se nourrir une fois par jour, ben, ils ont du mal à se nourrir
tout court,
une fois tous les deux jours maintenant. Et on remarque que la moyenne d'âge des enfants diminue. Aujourd'hui, on a été obligé d'ouvrir une nurserie pour les enfants de moins de 6 ans. C'est-à-dire qu'on trouve des enfants qui ont moins de 3 ans, moins d'un an dans la rue.
Moins d'un an ?
Ouais.
Des bébés abandonnés, quoi.
Des bébés abandonnés ou des bébés abandonnés avec leurs frères et sœurs, quoi.
Ouais.
Et on va ouvrir une troisième nurserie l'année prochaine, on pense.
Ouais.
On a un autre signe de la pauvreté, c'est que les Philippines, comme... Un peu comme en Afrique, ils sont très respectueux de leur famille. En fait, leur famille, c'est tout. C'est leur réseau social qui leur permet de trouver un travail. C'est c'est vraiment important, la famille. Et on commence à trouver aussi des anciens dans la rue. Des personnes âgées qu'on laisse toutes seules, alors que ça n'arrivait jamais.
Ça n'arrivait jamais autrefois.
Non, ils ont un respect de leur ancien qui est ancré dans leur culture. Et là, on commence à trouver des gens tout seuls, enfin, des anciens tout seuls dans la rue.
Ouais.
Et du coup, la fondation aussi a décidé de répondre à ce besoin-là d'accueillir des anciens.
Ouais, donc les vieilles alliances, si j'ose dire, sont en train de se défaire elles aussi. Alors Anna, c'est évidemment une kyrielle d'actions pour... Alors, j'énumère, hein, l'éducation des enfants, leur santé, leur nutrition et leur protection, ce qui, j'imagine, implique un travail mais monstrueux. Des troupes nombreuses et puis une multiplicité de partenariats. Donc, il y a combien de gens qui travaillent pour ANAC sur place ?
Alors, auprès de la fondation, il y a 150 employés philippins qui œuvrent pour ces enfants. Il y a donc, comme disait tout à l'heure William, il y a le directeur. Il y a aussi Ateglo, qui, elle, est l'adjointe de direction, une Philippine, qui consacre sa vie auprès des enfants depuis 1998. Il y a aussi des mamans volontaires, donc on dit community workers, qui sont volontaires dans les bidonvilles, qui habitent dans ces bidonvilles, donc des locaux, et donc voilà, qui sont formés et qui voilà, participent au programme de nutrition, au programme de santé, au programme de scolarisation. Et donc, elles font un travail phénoménal dans les bidonvilles parce qu'elles permettent de rentrer en relation avec les plus déshérités, parce qu'ils ont tendance à, par exemple, à cacher leur bébé, leur enfant qui est en mauvaise santé. Donc, c'est un bon relais pour la fondation, pour aller au cœur de cette misère.
Ouais.
Et il y a aussi des volontaires alors qui peuvent venir... En général, il y en a donc, ils sont six volontaires qui sont à des postes. Donc, c'est des gens qui viennent un peu partout dans le monde. Voilà, c'est en général quand même des Européens et notamment des Français. Et donc, qui ont des postes voilà, clés, notamment au niveau de la finance, au niveau des achats, au niveau de la communication. Au niveau aussi de la nutrition, la santé dans les bidonvilles. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi, voilà, pourquoi des Européens, pourquoi des Français à ces postes ? Parce qu'il y a une grande tentation de voilà, que les Philippins, que leur famille, voilà, les sollicitent parce que c'est des postes clés. Ouais. Et donc, financièrement, ça ouais. peut créer des tensions avec leurs proches.
Ouais. On leur ajouterait un poids sur les employés. Par exemple, l'acheteur, il va avec deux ou trois salaires dans sa poche pour acheter la nourriture de la fondation chaque semaine. Du coup, on ne souhaite pas mettre ce poids financier sur les employés.
Ouais. Alors, j'imagine donc la priorité des priorités, avant même l'éducation et même avant la santé, c'est manger. Comment vous y prenez ? Il y a des distributions comme ça de nourriture, des sortes de restos du cœur. Ça marche comment ?
Alors, le fonctionnement de la fondation. Pour les enfants des rues, il y a un premier travail qui est d'aller au contact des enfants dans la rue. Donc il y a un groupe d'éducateurs qui fait ça, qui font toujours le même circuit pour s'apprivoiser les uns les autres. En fait, l'enfant apprivoise l'adulte et l'adulte apprivoise l'enfant. On propose aux enfants de venir à la fondation. Donc quand il est décidé à s'en sortir, à se sortir de la rue, bien sûr il est accueilli à la fondation 24 heures sur 24, c'est-à-dire que ça devient sa maison et sa famille, cette fondation. Du coup, on distribue pas de nourriture dans la rue, on demande aux enfants de venir et être pris en charge complètement.
Ah d'accord, donc vous leur ferez en même temps que la nourriture le toit, quoi.
Le toit, oui.
Il faut simplement qu'ils disent oui, quoi.
C'est ça.
Et c'est tout un travail pour leur faire dire oui.
Voilà. Et c'est bien plus important, en fait. Cet enfant qui est dans la rue, avec l'expérience, s'est rendu compte que c'est pas un toit, des vêtements qui vont le faire venir, c'est la petite phrase qui est simplement dire « veux-tu être mon ami ?» En fait, le plus gros travail de la fondation, c'est pas de répondre aux besoins matériels, mais aux besoins du cœur, en fait. Ouais, voilà, exactement.
Ça en dit long sur l'être humain et ses besoins ouais. primordiaux. Hein.
En fait, un des premiers travaux de la fondation, donc, c'est d'accueillir ces enfants, de rechercher leur famille. Parce que, comme on disait tout à l'heure, il y en a qui ont pu se perdre. Donc, si on retrouve leur famille, ils retournent dans leur famille. Et puis, il y en a qui ont malheureusement plus de famille, ou ceux qui ont des familles où c'est pas possible d'y retourner, ils sont pris en charge par la fondation. Et je vous disais, un enfant qui est dans la rue, comme disait Christelle, ils ont été souvent violentés, abusés sexuellement, avec des blessures qui atteignent le corps, mais encore plus profondément ouais. le cœur. Et c'est là le plus gros travail de la fondation, en fait. C'est d'aimer ces enfants-là, chacun individuellement, pour essayer de guérir cette blessure.
Et donc une fois que l'enfant est hébergé, qu'il est nourri, qu'il est au chaud, il y a un travail peut-être aussi avec des psys
Exactement.
Ouais.
En fait, dans les employés, il y a des assistantes sociales qui permettent de rechercher les papiers, les familles, voilà, tout ce travail administratif. Il y a des psychologues, des infirmiers, des éducateurs. et puis des mamans, des parents, quoi, entre guillemets, qui s'occupent des maisons. Puisqu'il y a, donc pour continuer le fonctionnement, une fois que l'enfant arrive à la fondation, il est dans un centre de stabilisation. Parce que quitter la rue, c'est pas du tout facile. On fait ce qu'on veut dans la rue.
Et on prend de mauvaises habitudes. Voilà, généralement, la drogue des enfants, ça existe aussi, par exemple.
Ça. Exactement, ouais. Ça existe aussi. Alors, la drogue, il sniffe de la colle. Ouais. Ça n'a pas de dépendance physique, mais ça dégrade un peu les neurones. C'est pour oublier qu'ils sont malheureux.
Ouais. Alors, donc l'éducation, ils ont un toit, ils sont soignés, on les nourrit. Et l'éducation, évidemment, c'est ce qui permet de s'en sortir. Elle est faite par qui, l'éducation, donc ?
Du coup, dans ce premier centre de stabilisation, il y a ce qu'on appelle la bridge class, la classe passerelle, qui permet de réhabituer les enfants à avoir un rythme dans la journée, à les re-sociabiliser, c'est ce qui est le plus compliqué au final. Et puis donc, il y a un enseignant, il y a deux enseignants maintenant, qui sont des professionnels, des instituteurs, quoi, qui prennent en charge ces enfants-là et qui s'adaptent. Ils font un travail formidable parce que c'est des enfants des rues qui ont plein de mauvaises habitudes et qui n'ont pas du tout les mêmes niveaux scolaires. Du coup, ils sont obligés de composer avec le groupe. Et puis, pour continuer un petit peu, une fois que les enfants sont stabilisés, on va dire, ils vont dans des maisons familiales où là, ils sont une vingtaine d'enfants par maison. Aujourd'hui, on a 17 maisons comme ça pour les enfants des rues. Où là, ils sont pris en charge et ils vont à l'école du quartier. Comme les autres enfants et comme tous les enfants du monde.
Ouais. Voilà. Ça fait combien d'enfants au total à peu près, là, 17 maisons ?
Alors en fait, il y a
1300.
1300 enfants.
Alors non. Il y a 201. Les enfants des rues, il y en a 280 qui sont pris en charge tous les jours, voilà, complètement. 50 qui, en plus, handicapés, ce qui fait déjà 330. Et puis après, les 1300, comme disait Christelle, c'est dans les bidonvilles, et 800,
d'accord.
800 chiffonniers.
Chiffonniers, c'est ceux qui travaillent qui sont sur
la décharge. Voilà. Ouais. Alors ça reste des bidonvilles, mais c'est un peu plus particulier. Du coup, voilà.
Depuis que l'association existe, je rappelle, ça fait 20 ans, ouais. Est-ce qu'il y a eu des belles histoires ?
Il y a...
Paolo ?
Que des histoires magnifiques.
Ouais. Histoire de Paolo, vas-y.
Je raconte. Ouais. Donc Paolo, c'est un petit garçon qu'on a rencontré nous en 2004 quand on était volontaires. Alors au départ, son histoire elle est plutôt terrible puisque sa maman est décédée, son papa était trafiquant, du coup son garçon le gênait. Du coup, il a laissé Paolo dans la rue comme ça. Il avait 8 ans, je crois. En 2004, il devait avoir 8 ans. Du coup, nous on l'a rencontré à la fondation et il était un peu. C'est mignon, mais un peu terrible quand même.
Ouais, caïd, un petit. Oui. Ouais, il se faisait remarquer.
Ouais, voilà. Et puis il a cheminé avec la fondation et on l'a revu à Noël 2012, nous. Enfin, on le revoyait tous les deux ans, mais
ouais.
En 2012, on l'a vu avec une fiancée. Il avait fini ses études. Et puis il s'est marié et il a eu un petit garçon qui s'appelle Justin James. Voilà, donc il veut surtout pas que son enfant vive ce que lui a vécu. Ah oui, et son épouse, c'est une fille des rues aussi. Voilà, ils veulent vraiment pas que leur enfant vive ce qu'ils ont vécu. Et puis Paolo, il y a pas très longtemps, il a appris que son papa était en prison et malade. Et du coup, il est sorti de prison, son papa, et Paolo l'a accueilli chez lui. Voilà, et ce qui est super, c'est que il a redonné... En fait, son père qui a viré son fils, Paolo, il lui a redonné sa place de père et de grand-père en même temps.
Oui. Voilà. C'est assez grandiose, ça.
Voilà. Et alors, le père Mathieu, il met un accent sur ses blessures du cœur et comment on peut soigner ses blessures du cœur. Et ben, en fait, nous, humainement, on peut donner toutes les conditions. Mais en fait, c'est que par le pardon et en fait, grâce à Dieu, que ces blessures-là se referme en fait.
Il y a une vie spirituelle au sein des maisons, j'imagine.
Voilà, exactement. En fait, les Philippines, c'est un pays qui est très catholique. Donc, c'est plus naturel qu'en France, en fait. Ouais. Du coup, les enfants, ils font leur prière le matin.
Ouais.
Ils disent toute la fondation dit le chapelet à 18h. Uh-huh. Tous les enfants.
Il ne nous reste pas beaucoup de temps. L'association Créamanie dispose d'antennes un peu partout, j'imagine, en tout cas en France. Quel est leur rôle à ces antennes ?
Alors, oui, l'association ANAC TNK en France, dans les différentes régions, il y a des contacts et leur but, c'est de soutenir donc la fondation, apport financier. Donc, voilà, elle sollicite les gens pour des dons, pour faire des opérations, des événements, pour voilà, faire connaître l'œuvre de la fondation à Manille. Et puis, voilà, les soutenir financièrement. Ça, c'est ce qui est le plus important pour... Ouais. Pas forcément une tâche facile non plus. Et aussi le soutien par la prière. Voilà.
Puisque... Et donc, à Chartres, par exemple, il existe une antenne et vous organisez des collectes, des dons, des opérations
Alors nous, à notre niveau, notre action a été principalement dans les établissements scolaires, voilà, au moment de l'Avent, au moment du Carême, dans des aumôneries, au niveau d'une paroisse. Il y a un exemple aussi, une personne qui...
C'était un vendeur de meubles, Bois par Immeuble, près de Chartres, qui donnait une partie de son chiffre d'affaires des ventes de Noël
pour l'association. Alors, il nous reste vraiment les une minute. Hein. J'imagine que vous avez besoin de bénévoles, même peut-être y compris ici à Chartres.
Oui, tout à fait. On recherche en fait des gens qui font des événements et qui peuvent donc aider par ce biais, voilà, la fondation, nous soutenir, relayer l'information et puis donc déjà voilà, nous contacter pour pouvoir, s'ils ont des événements. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter.
Oui, ce que je rajoute qui est vraiment important quand même, c'est que je vous parlais de la blessure de ces enfants et qu'il n'y a que le pardon qui peut les guérir. Et on compte vraiment aussi sur les prières de chacun pour que Dieu rallume cette petite flamme dans leur cœur.
Merci beaucoup, Christelle et William Desvallons. On va, pour finir, donner un numéro de téléphone.
Donc nous, on est joignable au 02 37 51 96 74.
Voilà, c'était donc une émission sur l'association ANAC, un pont pour les enfants, qui a fêté ses 20 ans d'existence. On aimerait qu'elle cesse d'exister, ce serait une excellente nouvelle, mais malheureusement, ce n'est pas pour demain. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Simon en régie. Prochaine édition de l'émission Nouvelle d'ici, d'ailleurs, c'est dans 4 semaines. D'ici là, restez-nous fidèles.
Merci.
Merci.